Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Julie Amaï.
C'est parti!
Qui va chercher les enfants?
Ne pas oublier d'organiser l'anniversaire de la tante Jacqueline.
Arroser le ficus du chef au bureau.
Si je réponds merde à un agresseur, est-ce que je risque de me faire agresser en retour? Ou d'avoir l'air hostile?
Si je parle en réunion, je vais passer pour la chieuse?
Est-ce que mes poils aux pattes ont repoussé et est-ce que ça se voit?
Est-ce que je mets mon style sexy qui serre ou le confortable moche?
Ça, c'est la petite musique mentale de la charge émotionnelle. Une ritournelle incessante pour la plupart des femmes et souvent invisible à l'œil nu. On va en parler dans cet épisode. Mais avant, on est avec Julie. Salut Julie. Comment ça va? Je sens que tu as le seum.
La tête du seum. Ça va pas parce qu'en fait, toute cette histoire de la Ligue du LOL m'a replongée dans des années sombres de ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais en école de journalisme, il y a un mec qui s'amusait en fait sur Facebook à parler de moi devant toute sa petite horde de copains et de moutons, à dire que j'étais tellement conne qu'il fallait que j'aille, que je retourne en Chine, mon pays d'origine, avec de gros guillemets, je suis née en France, d'origine vietnamienne, pour coudre des ballons, ou qu'il y avait tellement de conneries qui sortaient de moi que ça sortait des boutons sur mon visage. Ces phrases-là, en fait, elles restent en moi, ça va faire quasiment 10 ans, et je ne les ai toujours pas digérées. Et je regardais encore hier qui tweetait sur le réseau social qui a mis encore plus en avant ce type de harcèlement. Ah, mais c'est horrible, la Ligue du LOL, ah là là, ces mecs trop méchants. Mais mec, en fait, t'en faisais partie. Fais pas comme si... tu ne faisais pas partie de ces cons qui ont pris des têtes de turc pour taper dessus, pour se sentir plus puissant et plus rigolo devant ses petits copains. Mmh. Donc moi, j'ai un gros coup de gueule à passer et j'ai envie de responsabiliser tous ceux qui suivent ces harceleurs et qui continuent à les suivre et qui continuent à se dire qu'ils sont cool et qu'il faut regarder ce qu'ils font et qu'il faut les imiter et qu'on peut rire à leurs blagues de merde.
Mmh. Oui, balayez devant votre porte, reconnaissez les faits, excusez-vous et prenez des décisions, en fait, très concrètes pour que ça évolue. Pour revenir un peu à notre thème qui est la charge émotionnelle, c'est vrai que ça paraît être un détail assez anodin du quotidien, quelque chose de matérialiste, presque un petit peu mesquin à rappeler, parce que c'est à la fois l'organisation, la logistique, on va aussi parler de tâches ménagères, du souci de l'autre, des rendez-vous chez le médecin. Voilà, c'est des trucs qui font quand même chier tout le monde, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui le font, et donc on se demande un peu pourquoi. Mais avant de parler de charge émotionnelle, je pense qu'il faut faire un tout petit rappel historique sur qu'est-ce que le travail domestique et qu'est-ce que la charge mentale. Il faut se souvenir qu'une des premières personnes en France à avoir trouvé que le sujet était intéressant à l'époque où tout le monde s'en foutait, c'est la sociologue féministe Christine Delphi, qui, au moment où le MLF, le mouvement de libération des femmes, s'est lancé, elle a publié un article en 1970 qui s'appelait « L'ennemi principal ». Et donc, face aux marxistes qui parlaient surtout d'exploitation capitaliste, elle a expliqué que c'était la classe des hommes qui exploitait la force de travail des femmes. Et donc, elle a vraiment inventé le concept de travail domestique, qui n'est pas que ménager. On l'écoute sur France Culture.
Alors, le mode de production domestique, c'est justement le mode de production où la force de travail, j'emploie là un vocabulaire marxiste, mais enfin, la capacité de travail des épouses... Les épouses et souvent aussi des enfants, de moins en moins maintenant, mais c'était des enfants, filles ou garçons. La capacité de travail de ces gens était utilisée par le chef de famille. Et alors évidemment, c'était beaucoup plus fréquent dans le cas des épouses. Ça faisait partie de la notion même du mariage que les femmes fassent ce travail pour rien. Pour rien, je veux dire, juste pour leur entretien, en fait.
Ensuite, et c'est peut-être ce qui a eu le plus d'impact récemment, c'est les dessins de la dessinatrice Emma qui ont été publiés sur Facebook et qui a ensuite sorti une BD sur la charge mentale en 2017.
Ça ne nous a pas échappé.
Alors, on a eu l'impression que ça enfonçait des portes ouvertes parce que nous, on découvrait pas grand-chose. Mais il y a des gens quand même qui sont tombés des nues en se disant « Ah, mais c'est fou tout ce à quoi vous devez penser ». Et oui, et donc on l'écoute dans la poudre parler des réactions à la BD.
Moi, quand je fais bouillir de l'eau, bah, je lance mon aspirateur robot et puis je vais commander des courses sur je sais pas quoi et tout ça, et puis du coup ça déborde et tout, et oui, après forcément je me suis pas concentrée sur ma tâche, voilà. Et donc du coup j'ai une copine qui me disait, moi mon copain déjà il me demande ce qu'il peut faire, et je lui dis bah coupe un oignon, et bah pendant que moi je fais à manger, je nettoie la cuisine, j'ai lancé une lessive machin, lui il a fini de couper son oignon en fait
en petits cubes parfaitement réguliers.
C'est hyper, tout ça, est de la même taille et ça. Tout ça, donc moi je pense pas que les hommes font mal, je pense que ils n'ont pas encore compris le sentiment d'urgence dans lequel on est quand on se tape tous ces trucs.
Donc la charge mentale, c'est le fait de penser à organiser tout ça, de tout gérer. Et une chercheuse québécoise, Nicole Bray, à l'université de Laval, l'a définie ainsi. C'est un travail de gestion, d'organisation, de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence.
De la résidence, j'adore ce mot. Et pour compléter voilà, cette petite brochette, l'année dernière, la journaliste Titiou Lecoq a publié un livre à ce sujet qui s'appelle Libérée, dans lequel elle évoque le phénomène bien connu de la chaussette oubliée qui se range toute seule comme par magie. Et elle a expliqué que vraiment, ça, c'est quelque chose qui se perpétuait, y compris parmi les plus jeunes générations, donc les gens de notre âge. Et elle écrit « En réalité, la femme est devenue la chef qui se donne à elle-même des ordres à exécuter. » Voilà.
Alors, je pense que l'engueulade, je pense que le fait d'accepter de s'engueuler sur les tâches ménagères a quelque chose de libérateur. Déjà, ça veut dire qu'on considère que c'est un vrai sujet qui mérite une engueulade. Oui, c'est une vraie injustice et une vraie inégalité. On va faire attention. C'est-à-dire que moi, je peux facilement être féministe sur Internet, dans la rue, à plein de choses, mais une fois la porte de la maison fermée, est-ce qu'on continue à vivre en accord avec ces principes ?
Et sinon, il y a Slate aussi qui a publié un article et demandé à des hommes s'ils avaient conscience ou non de tout ça, où en fait, il est d'ailleurs question plutôt de valoriser l'aide et non le partage des tâches. Parmi les réponses d'hommes, celle-ci, une fois la tâche finie, j'ai tendance à me reposer sur le canapé sans planifier autre chose.
Ouais, ouais, ouais. Wow.
Moi aussi, j'aimerais bien.
Bah ouais, on aimerait tous se reposer sur le canapé, mais en fait, note.
Non, nous, on est déjà en train de faire la vaisselle, de prendre les rendez-vous.
Ouais, enfin, surtout d'anticiper tout ce qu'il faudra faire et de tout organiser. Donc voilà, chacun sa vie. Et pour parler un petit peu maintenant de charge émotionnelle, c'est quelque chose dont on s'est mis à parler l'année dernière et cette année. Et c'est d'autant plus, je pense, compliqué qu'il faut déjà pouvoir identifier ce que c'est, puisqu'on a l'impression que c'est un peu tout et rien, que c'est difficile à quantifier, que souvent, soi-même, quand on le fait, on ne se rend pas forcément compte que c'est du travail et en plus que c'est inégalitaire. Et surtout, derrière ça, on retrouve ce vieux stéréotype selon lequel les émotions seraient une sorte de monopole féminin. Alors qu'en fait, non, puisque c'est une compétence socialement acquise, on le rappelle.
Et c'est d'ailleurs la sociologue américaine Harley Russell Oshill qui a théorisé cette charge émotionnelle dans son livre publié en 1983, The Manage Hurt. Au départ, à propos des métiers de service et de soins comme hôtesse de l'air, en fait, c'est se sentir responsable du confort émotionnel de son entourage, au détriment du sien d'ailleurs.
Évidemment.
Et ne pas vexer quelqu'un. Si par exemple, on vous dit un truc sexiste, eh ben, il ne faut pas répondre. Genre à Noël, quand on pense au cadeau, ce qui va faire plaisir à qui est-ce qu'on va placer à côté de telle personne à la table, etc. C'est tout ça en fait, cette charge. Et ça prend aussi, c'est aussi de prendre en charge la santé des conjoints à leur place en faisant attention, tiens, bois un peu de gingembre en ce moment, fais-toi un petit thé au citron, gérer également les liens familiaux, appelle un peu plus papa, tu sais qu'il n'est pas bien en ce moment. Et la vie sociale du couple, bien sûr, où là on devient un petit peu mère et infirmière du conjoint.
Oui. On a remarqué aussi que les gens et les hommes se confient souvent plus aux femmes et ont tendance à déverser leurs problèmes sur elles, qu'elles ont tendance à devoir s'occuper des frères et sœurs plus jeunes, que c'est souvent elles qui, justement, arrosent le ficus de leur patron ou amènent une plante au bureau ou font un gâteau pour un anniversaire.
Patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas, faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage.
Les femmes sont souvent sommées de se justifier, y compris à des inconnus dans la rue, sur les décisions qu'on prend sur nos tenues, notre corps, notre féminité, est-ce qu'on est trop féminine, pas assez féminine, notre fertilité, qu'il ne faut surtout pas passer pour une personne en colère, mais penser à bien faire la conversation. Enfin voilà, et ça demande en fait un temps mental
énorme.
Voilà, c'est vraiment une petite mécanique mentale incessante. Et d'ailleurs, la dessinatrice Emma a elle aussi sorti un nouveau tome de sa BD en 2018 sur la charge émotionnelle, entre autres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle s'applique très spécifiquement aussi aux personnes racisées qui doivent, elles aussi, expliquer, faire attention à ne pas froisser les autres, attention aux malentendus, faire de la pédagogie. Pour les femmes noires, il ne faut surtout pas passer pour une angry black woman, donc pour une femme noire en colère. On sait qu'aux États-Unis et en France, il y a un mythe qui a cours, c'est le mythe de la strong black woman, donc la femme noire forte, qui donc n'aurait besoin de personne. Mais doit s'occuper de tout le monde néanmoins, comme le personnage joué par Whoopi Goldberg dans Sister Act. On se souvient qu'elle chasse les méchants et en même temps elle dirige un gospel, elle fait du multitasking de ouf, mais là-dedans personne se soucie vraiment de savoir si ça va et de son bien-être. Et voilà, il y a vraiment cette idée que les femmes noires sont censées s'occuper de tout le monde. On ne sait pas si c'est à cause des chromosomes, des hormones, du stéréotype de la nounou noire américaine, enfin tout ça évidemment est totalement faux. Et en plus, elles passent leur temps à éduquer les personnes blanches sur les réseaux sociaux pour expliquer le racisme.
Qui prend beaucoup de temps.
Ouais, toi-même, tu sais. Et d'ailleurs, il y a une étudiante de Columbia qui s'appelle Amari Gaiter, qui a écrit dans le Columbia Spectator qu'elle ne s'attendait pas, au cours de ses études, à devoir servir d'exemple dans plein de cours, à devoir parler d'elle, expliquer son vécu de personne noire, de devoir expliquer toute l'histoire du racisme à ses congénères. Donc voilà, elle dit que ça a été très pénible. Et souvent, pour les personnes LGBT, ça peut consister à devoir justifier, voire expliquer son orientation sexuelle à des inconnus, alors que quand on est une personne hétérosexuelle, personne ne nous demande quoi que ce soit, en fait.
Oui, c'est une charge encore supplémentaire pour toutes les personnes militantes. C'est lourd à porter, en fait, de devoir toujours rassurer les autres, par exemple, bon, là, en l'occurrence, plutôt pour les femmes, de rassurer les hommes individuellement, que quand on leur dit qu'ils ne font pas assez attention, que ce soit au foyer ou aux émotions, non, mais c'est pas toi personnellement, non, mais je te dis pas ça pour te vexer, etc.
Tellement de précautions linguistiques.
Voilà, utiliser un point d'interrogation au lieu d'un point ou d'un point d'exclamation, attendre que les hommes parlent, même s'ils connaissent rien au sujet. Ajouter des... Oui, enfin, je dis ça, je sais pas. Enfin, c'est que mon avis, à la fin des phrases, pour apaiser un petit peu le discours.
Ouais, c'est le phénomène aussi du tone policing, c'est-à-dire quand on vous dit de faire attention à votre ton, tout ça pour ne pas écouter ce que vous avez à dire, en fait. Donc c'est vraiment une double charge. Et c'est vrai que dans les couples, souvent, on se dit... En fait, si on est amoureux, il n'y a peut-être pas de charge. Peut-être que les choses sont très bien réparties. Évidemment, ce n'est pas aussi simple, puisque les conceptions de l'amour sont en fait assez différenciées selon les sexes et selon les genres. D'ailleurs, une politologue islandaise qui s'appelle Anna Jónasdóttir a expliqué qu'en couple, les femmes souvent donnent beaucoup d'amour et du soin. Et qu'en retour, les hommes se nourrissent de cet amour pour occuper une place, en fait, dans le monde. Donc ça leur sert vraiment, mais souvent sans rendre l'appareil. Donc, rendez la thune. Et voilà, ces personnes-là, on les appelle souvent « emotional vampires », donc des vampires émotionnels, puisqu'ils te sucent ton cerveau, ton temps et tes émotions. C'est chiant.
C'est horrible. Puis à la maison, au bureau, les hommes, eux, ne font pas cette démarche-là. Donc, c'est aux femmes de le faire. Mmh. Pour les mecs, c'est plutôt un choix volontaire et ils se félicitent et on les félicite lorsqu'ils le font.
Ouais, comme si c'était exceptionnel.
Oui, et puis comme s'il fallait les féliciter. Enfin, moi, il n'y a personne qui me félicite tous les jours pour me dire « Ah, c'est bien, t'as pensé à faire ça. » Donc, le stéréotype veut que les femmes aient plus d'empathie, plus d'intuition, un goût naturel pour materner, donner des conseils, écouter les gens. Et finalement, ce stéréotype-là permet aux hommes d'être paresseux parce qu'ils se disent « Oui, mais elles sont comme ça de fait, comme pour la maternité d'ailleurs. » Et c'est pas vrai, ça crée du ressentiment, même au sein du couple, ça peut être très très néfaste. Et c'est pas tenable, c'est toxique à la fois pour les femmes et pour les hommes, puisque finalement, on en veut à une personne alors qu'elle a été élevée de cette manière-là, quoi.
Et donc moi, récemment, j'ai eu l'idée de quelque chose que j'ai appelé la charge sexuelle, qui me paraît être en gros une séparation entre la partie agréable de la sexualité qui est souvent monopolisée par les hommes et une partie plus ingrate qui est souvent assignée aux femmes. Donc ça recoupe énormément de choses, être désirable, s'épiler, se préoccuper de rassurer son conjoint sur sa performance, s'occuper de la contraception, des MST, faire semblant, simuler carrément pour ne pas froisser le fragile égo masculin. Et alors, du côté de nos expériences perso...
Alors, raconte, c'est comment chez toi ?
Déjà, moi, j'habite avec un chat et un chien, donc ça va. Mais effectivement, c'est un sujet dont on parle hyper souvent avec mes amis proches. Et je pense qu'il y a notamment un sujet qui cristallise la charge émotionnelle. C'est le moment fatidique des vacances, puisque, en tout cas, beaucoup de femmes autour de moi servent de tour opérateur. Donc, c'est-à-dire que les mecs ont envie d'aller quelque part et qu'ensuite, toi, tu dois t'occuper de toute la partie logistique. Sinon, en fait, t'as pas de vacances, parce que si t'attends la dernière minute, soit c'est complet, soit c'est trop cher. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai jamais compris pourquoi c'était moi qui le faisais. J'ai essayé de défaire le mécanisme sans succès. Donc j'ai fini aussi souvent par partir en vacances avec des amies qui, elles aussi, étaient OK pour organiser les vacances avec moi. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce dont on vient de parler, moi, ça me donne pas du tout envie d'habiter avec quelqu'un, en fait. Et j'ai pas très envie de me confronter à toutes ces charges-là. Et puisque moi, j'habite pas en couple, en tout cas, je me suis déjà retrouvée dans des situations de couple où on a plutôt fait face à la charge émotionnelle militante. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'en ai eu marre de devoir expliquer tout le temps mon métier.
Mec.
Ouais, à mon mec et mon féminisme. Ça me prenait vraiment trop de temps de cerveau, ça musait les nerfs. Et voilà, et donc je me dis... Enfin, surtout, j'avais pas envie d'en débattre, en fait. Donc, si c'est pour écouter et se taire, c'est cool. Mais sinon... non, en fait, j'ai plus envie de faire ce travail-là. Voilà.
Oui, t'as pas envie de faire de la pédagogie pour expliquer ce que tu penses, surtout à quelqu'un d'aussi proche de toi, quoi.
Bah, en fait, de la pédagogie, j'en fais là, à l'instant, mais j'ai pas envie d'en faire chez moi, quoi. Tu vois,
écoute les podcasts, mec.
Bah oui, c'est ça. Et toi, Julie ?
Alors moi, côté tour opérateur, je me suis souvent laissée porter par des mecs.
C'est pas grave, tant mieux.
Par mon père d'abord et mon mec ensuite. Mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me suis dit, j'ai pensé très très fort à un ami à moi québécois, alors que Dieu sait qu'ils sont bien plus en avance que nous sur ce sujet, qui est très très fier de dire à tout le monde quand il passe l'aspirateur.
Wow, tu veux une médaille, mec.
Tu vois, quand il appelle sa copine, c'est « Oui, ça va, ouais, je rentre là. Oui, j'ai passé l'aspirateur ce matin, au fait. » Il appelle sa mère le soir. « Oui, oui, ça va, tranquille, au boulot, j'ai passé l'aspirateur, là. »
Ouais, il y a vraiment la volonté de compenser et de se valoriser, ouais, ouais, de montrer ces choses-là.
Ouais, mais bon, il en rit encore. Hein, donc, ces choses quand même évoluent dans le bon sens. C'est ce que je constate quand même un petit peu. Ou sinon, peut-être que je suis entourée de mecs hyper progressistes, je sais pas. Mais par contre, je veux vraiment lancer un appel aux mères qui disent à leurs maris et à leurs enfants, non mais là, je vais le faire. Arrêtez. Je sais que si vous le faites pas, ce sera pas fait tout de suite et ce sera peut-être pas bien fait.
Ouais.
Mais je pense que ça passe aussi par là. Moi, j'ai été beaucoup plus témoin de mères qui déresponsabilisaient leur fils pour le moment, quoi. Et ouais, c'est très, très frustrant. Donc, il faut aussi donner la possibilité, la capacité à l'autre de le faire, même s'il ne le fait pas super bien, il apprendra. Et puis, il faut aussi laisser un peu de marge là-dessus, quoi.
Ouais, après, je pense que ce que tu décris, c'est peut-être la conséquence aussi de la déresponsabilisation des hommes, qui fait que les femmes surinvestissent aussi peut-être ces domaines-là. Et que donc, finalement... ça évolue pas et donc la situation se perpétue un peu de génération en génération. D'ailleurs, à ce sujet, on va écouter le témoignage d'Alice qui nous parle de la charge émotionnelle dans son couple.
Alors, je suis sortie pendant quelques années avec un homme. Quand je l'ai rencontré, ce que j'ai bien aimé, c'était son côté un peu faible, un peu sensible, pas très virilos, qui s'impose. Et en fait, c'était quelqu'un qui était même assez triste, assez angoissé, qui pouvait avoir une peur panique d'aller dans des transports bondés, ou qui pouvait avoir tendance à boire énormément quand quelque chose le contrariait. Et ce qui s'est installé assez vite dans notre relation, c'est que moi, je lui faisais énormément de bien, en fait, à tous ces aspects-là de sa personnalité. Et ça le détendait énormément d'être avec moi, il me le disait toujours, etc. Ce qui fait que moi aussi, ça m'a progressivement rendu assez accro, ce sentiment d'être indispensable à son bien-être et de sentir vraiment que j'apportais quelque chose qui l'allégeait et qui le soulageait complètement. Et ça passait par des choses assez concrètes. Par exemple, je lui ai trouvé l'adresse d'un analyste, ou bien il m'a présenté sa famille à l'occasion de la mort de son grand-père, parce qu'il s'imaginait pas du tout d'aller à un enterrement sans que je sois présente physiquement à côté de lui. Et ça a duré des années, et j'avais même le sentiment quelquefois que j'éprouvais certains sentiments à sa place, comme par exemple quand quelqu'un lui rendait un grand service, il disait merci du bout des lèvres et puis il pensait à autre chose, alors que moi je me sentais vraiment redevable. Ça m'est arrivé d'acheter une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs à quelqu'un qui lui avait rendu un grand service. Ou bien à l'inverse, s'il blessait quelqu'un ou qu'il faisait une bêtise ou qu'il cassait quelque chose chez quelqu'un, je sais pas, un truc comme ça, moi je me sentais assez coupable alors que lui il s'excusait en général assez rapidement. Et puis, on s'est séparés au bout de quelques temps pour d'autres raisons et j'étais extrêmement triste, j'étais tout à fait dévastée, mais en même temps, je me suis rendu compte que j'avais comme une espèce de trop-plein d'énergie où je dormais plus que 6 heures par nuit et ça me suffisait, ou bien je pouvais faire du sport, ce dont j'étais complètement incapable auparavant. Et ce que m'a dit mon analyste à ce moment-là, c'est « Mais oui, ça fait des années que vous portiez sa dépression et vous n'avez plus ce poids sur les épaules à porter, et donc vous êtes à la fois triste mais très légère. » Et donc, voilà, je pense que c'est un peu un exemple de charge, de poids émotionnel que les femmes peuvent porter.
Merci beaucoup Alice pour ton témoignage.
Éprouvant.
Ouais. Donc finalement, Clémentine, est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Ah, j'en ai tellement, surtout aux auditeurs en fait.
Sur la liste.
Ouais, alors déjà, please, arrêtez de dire aux meufs de se détendre.
Détends-toi.
Ouais, parce que franchement, non. Et puis surtout, bah, toutes ces charges-là, mentales, émotionnelles, sexuelles, c'est pas que faire, c'est penser, organiser, planifier. Et donc, si on se réfère au vieux stéréotype selon lequel la masculinité serait associée à l'action, bah en fait, vous pouvez peut-être, vous les hommes, avoir une force de proposition. Si vous voulez être l'homme de la maison, bah soyez-le en fait, mais investissez ces domaines-là. Prenez des initiatives, attendez pas qu'on vous dise quoi faire, puisque c'est le fameux « dis-moi si je peux faire quelque chose ».
Je peux t'aider ? Tu peux pas m'aider ? Tu peux faire avec
moi,
en fait.
Ça. Enfin, tu peux faire avant moi, en fait, ou à ma place. Et parce que, voilà, la femme, c'est pas le manager de sa maison, en fait. Enfin, si elle habite en couple avec quelqu'un, il y a deux personnes, quoi. Donc, les mecs, appropriez-vous votre maison. Ouvrez les placards, ouvrez le frigo, au lieu de déléguer et de demander. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que c'est déjà une charge mentale de dire aux hommes quoi faire dans ce podcast, ça se mord complètement la queue.
Mais il faut. Voilà, mais il y aura eu ce podcast et après le changement va arriver.
C'est ça. Et sinon, bah, vous pouvez aussi remercier les femmes. reconnaître leur travail, lui donner une visibilité, accepter qu'elles disent non, parce qu'en fait, peut-être qu'elles elles sont occupées à plus de choses que vous ne pensez. Vous pouvez aussi nous payer pour écouter vos blagues de merde.
Parce que ça fait également partie de la charge émotionnelle de devoir rire à vos blagues.
Ouais, c'est ça. Et toi, Julie, tu as des conseils ?
Bah, éduquer les enfants, les garçons, les pères, montrer l'exemple. Titiou Lecoq écrivait « Je peux dire à mes garçons de faire le ménage et de ranger, mais si ce n'est pas associé à l'identité masculine, ça ne servira à rien.
Ouais.
Donc vous, femmes, ne vous bloquez pas à l'idée qu'un homme ne saura pas faire une tâche ou penser à quelque chose. Je sais que mon discours va peut-être choquer certaines auditrices, mais certaines femmes pensent vraiment ça et pensent que les choses seront mal faites si les hommes le font. Donc il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, laisser un espace de liberté et encourager les hommes à le faire.
Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux que les choses soient... mal faite plutôt que
une
pas,
fois ou
pas
deux.
Faite du tout quoi.
Ouais, et puis une fois ou deux, c'est pas grave si l'aspirateur n'est pas passé complètement sous le canapé pendant une semaine.
Non mais je comprends, moi je pense que la surcharge émotionnelle et mentale, ça rend aussi psychorigide, tu vois, donc je comprends un peu ces meufs. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire des to-do list pour se soulager le cerveau. Si vous êtes face à des personnes qui vous demandent des explications sur votre militantisme, ils peuvent peut-être aller sur Google, puisque c'est pas aux féministes à vous expliquer tous les concepts. Vous pouvez aussi vous renseigner. Il faut aussi reconnaître que le travail non rémunéré de vachement d'activistes nous sauve quand même de la dictature et du fascisme. Donc on peut décider de compenser ce travail-là. On peut financer les gens, on peut penser à les citer, à partager leur travail et leurs travaux. Et dans les relations amoureuses, mesdames et messieurs, le travail émotionnel, c'est pas, ça ne se limite pas simplement au début d'une relation. C'est quelque chose qu'il faut faire tout du long.
Il faut entretenir la petite flamme.
Bah oui, puis c'est pas juste pour pécho, en fait. Ouais. Donc voilà, on ne laisse pas les choses se déliter, s'il vous plaît. Merci.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop. Culture.
Et niveau pop culture, alors, on en est où ?
Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment incarné toutes ces problématiques récemment à la télévision. C'est Marie Kondo qui fait vraiment partie de notre culture aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette personne ?
Oui, alors j'en parle avec des grands cœurs dans les yeux. Marie Kondo, c'est une femme japonaise spécialisée dans le rangement et le développement personnel.
Hello, I'm Marie Kondo. Otashi no mission wa katasuke niyotte sekai wo tokimekasete.
Son livre La magie du rangement, qui a été publié en 2011, est un best-seller au Japon et partout dans le monde parce qu'il a été énormément traduit.
Impossible d'y échapper.
Voilà, ça a été aussi une BD, une série au Japon et bien sûr désormais une série aux États-Unis. Alors elle préconise de trier ses affaires par catégorie et de se séparer du superflu. Donc d'abord, organiser les habits, les livres, les papiers, les objets à valeur sentimentale, etc. Sa technique, c'est de tout réunir dans une pièce par catégorie, de prendre chaque objet contre soi afin de voir s'il nous apporte encore une petite joie, une petite étincelle, le petit tching dont elle parle dans la série. Et ceux qui nous apportent de la joie, eh ben on les garde. Et ceux qui ne nous apportent plus de joie, on les remercie, ce qui est un petit peu bizarre, et on les met de côté pour qu'ils soient donnés ou jetés.
Et du coup, ça marche cette méthode ?
Alors, moi, je l'ai fait et j'ai bien rangé chez moi. Je ne sais pas si vous aviez à peu près 140 tote bags dans un vieux placard de la maison.
Ouais, c'est le fameux sac à sac.
Voilà. Et j'en ai plus que 6 ou 7 que j'ai rangés. Et j'ai donné les autres à des copines et à des gens, etc. Et, ça marche vraiment. En plus, ça libère et il y a vraiment un esprit de développement personnel parce qu'on se sent mieux de faire ses choix. On se sent aussi un peu puissant d'avoir réalisé cette sélection et d'être sûr de soi. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, en couple, en famille. Et c'est bien ce qu'elle préconise d'ailleurs.
Et alors justement, Netflix lui a accordé la place pour faire une émission qui s'appelle donc L'Art du Rangement, dont on va écouter la bande-annonce.
It's a never-ending battle to fight the clutter. With the baby coming, we gotta get our stuff in order. We had to downsize from a 4-story house to a 2-bedroom apartment.
I lost my husband. I don't know that I have everything it takes to get rid of his belongings.
Bah alors moi j'adore, je suis assez fan. En fait, elle vient d'abord pour aider les foyers à mieux organiser leur maison. à l'aérer et ça aura donc forcément un impact sur la vie des gens. C'est vrai que dans plusieurs épisodes, les hommes qui sont américains sont plutôt en retrait. Puis petit à petit, au cours de l'épisode, ils vont être responsabilisés pour participer au grand rangement. Il y a aussi d'autres épisodes un peu plus tard dans la saison où par exemple, c'est un couple d'hommes homosexuels. Donc là, ils sont tous les deux en train de faire le rangement dès le début. Il y a aussi un autre épisode que j'ai vu hier où en fait, c'était une femme qui avait beaucoup de mal à ranger alors que c'était plutôt son mec qui s'occupait de toute cette charge-là.
Ouais, c'est loin d'être la norme. Hein. Ouais. Mais bon, ça arrive effectivement.
Ça arrive, ça arrive. Mais voilà, moi, j'adore. C'est du bon divertissement.
Moi, je suis pas aussi enthousiaste que toi, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais essayé de ranger comme Marie Kondo, parce que je trouve que le rangement, c'est une nouvelle injonction en fait. Donc moi, je suis assez réfractaire à ça.
Vive le bordel.
Bah ouais. Et en fait, c'est vrai que regarder cette série, ça m'a justement dispensé de ranger chez moi par un mécanisme psychologique un peu pervers. Voilà. Il faut savoir que l'adaptation en série a été assez un peu critiquée. Et que Marie Kondo ne se revendique pas, par ailleurs, militante féministe. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, elle met quand même en lumière, sans commentaire, mais juste avec le choc des images, vachement d'inégalités. Par exemple, il y a une famille où la femme pète complètement les plombs, on voit que son mari ne fait absolument rien. Il y a une autre famille où le père est tout content de dire que, comme ses enfants, il laisse maman s'occuper de tout et c'est hyper drôle. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle elle finit par mieux répartir en fait, la charge mentale et la charge émotionnelle entre les conjoints de manière assez diplomate et assez subtile et sans le dire de cette manière-là. Et elle vient vraiment faire l'arbitrage quoi, et impliquer les mecs dans ce travail-là.
I can wait.
This is my office.
Oh, good mess.
Okay, good. See, because I think of this as organized chaos.
Parce que ça, c'est très japonais culturellement de responsabiliser tout le monde dès la petite enfance à ranger derrière soi et à faire attention aux autres.
Ah oui, ben écoute, je savais pas. Et alors, pour parler d'autre chose que de Marie Kondo, il y a aussi des séries et des films dans lesquels on voit la charge mentale et ou la charge émotionnelle. Moi, je me souviens très bien du premier épisode de Mad Men, de la série Mad Men, où le personnage de Peggy arrive le premier jour pour être embauchée comme secrétaire. Et la manager du bureau lui explique très bien la situation en disant, en fait, ce que cherchent les mecs pour qui tu vas travailler. C'est à la fois une secrétaire, une infirmière et une femme au foyer. Donc, ce qui n'a rien à voir avec un travail salarié, en fait.
He may act like he wants a secretary, but most of the time they're looking for something between a mother and a waitress.
Il y a aussi une BD que je recommande qui s'appelle Something New, qui a été dessinée par Lucy Nisley, qui est une dessinatrice, une BDiste américaine. Elle raconte dans cette BD l'organisation de son mariage et comment elle a failli faire un burn-out à force d'avoir à penser à tout. Parce que même si son conjoint l'aidait, en fait, la femme reste souvent le seul référent du...
Oui, il l'aidait.
Bah voilà, c'est ça, le seul référent du mariage. Et d'ailleurs, récemment à Paris, on voyait l'affiche du salon du mariage. Et en fait, c'était une femme seule, quoi. J'étais là, mais putain, c'est le salon de la charge mentale, ce truc. Donc, ouais, j'ai trouvé ça assez parlant. Il y a une autre BD qu'on peut recommander, c'est celle de la dessinatrice suédoise Liv Strömquist, qu'on adore. C'est Les Sentiments du Prince Charles. Pour moi, cette BD, c'est vraiment la base, en fait. Tu peux l'offrir aux gens au lieu de leur expliquer ce que c'est que le féminisme. Et en fait, dans le livre, elle montre notamment que beaucoup d'épouses ont tendance à prendre soin de leur mari malade ou mourant. Ça a été le cas avec le cinéaste Ingmar Bergman, ça a été le cas avec l'ancien président américain Ronald Reagan. Mais par contre, quand c'est les femmes qui sont malades, là, dans pas mal de cas, les hommes ont tendance à juste les quitter. Voilà. C'est pas très équitablement réparti.
Et on peut parler aussi de la charge émotionnelle des femmes noires qui, en plus d'avoir à faire attention au patriarcat, doivent aussi faire attention aux autres femmes blanches et à ne pas les froisser. Dans la série Insecure, le personnage joué par Issa Rae doit tout le temps ménager ses collègues blancs dans l'association où elle travaille.
Few of the others had some concerns.
Are they concerns that they can talk to me about?
They're having secret white meetings and they're sending secret white emails.
Girl, you know these white people are...
Oh. C'est effectivement, je trouve que c'est très bien montré dans la série.
Et il y a Il y a un film dont tu voulais nous parler aussi.
Ouais, alors c'est un, quand même un classique de notre enfance.
Que j'adore.
Oui, moi aussi. Mais en fait, je l'ai revisité au moment de la mort de Robin Williams, puisque c'est le comédien principal. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux, en fait. Donc c'est Madame Doubtfire, qui est par ailleurs un film assez génial sur la comédie du travestissement. Mais ça parle aussi, je trouve, vraiment de double standard, puisque donc, Robin Williams joue un père divorcé qui veut revoir ses enfants dont il n'a pas la garde. Voilà, on dirait un peu un brûlot masculiniste, dit comme ça, mais non. Le film montre vraiment comment un homme va découvrir la charge mentale et la charge émotionnelle en se faisant passer pour une nounou, pour une femme, enfin une nounou femme de ménage. Auprès de ses enfants en se travestissant. Il se rend compte que ouais, c'est chiant de s'occuper des gosses, c'est chiant de faire le ménage et la bouffe.
C'est chaud. Oh là là, une éruption.
Et le paradoxe du film, c'est vraiment qu'on s'attendrit sur toutes ces actions en fait de la part de cet homme, alors qu'on trouve totalement normal pour sa femme, enfin son ex-femme, de les faire. Et surtout, cette pauvre dame se retrouve quand même à payer son ex pour qu'il s'occupe de ses propres enfants. Donc c'est quand même l'arnaque totale.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Et alors, est-ce qu'on a des recommandations culturelles cette semaine ? Toi, est-ce que t'aurais pas lu un livre par hasard ?
Oui, j'ai lu Merci, fallait pas, le sexisme expliqué à ma belle-mère de Laura
Domange. Ça tombe bien.
Aux éditions First, ça vient de sortir. Sous couvert de légèreté et de blagues, l'humoriste fait passer un message quand même assez clair pour rappeler que l'égalité n'est toujours pas de mise. Et en fait, les charges mentales et émotionnelles sont en filigrane tout au long du livre. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'offrir à ma belle-mère. Mais on m'a dit que ça se faisait pas.
Moi, je pense que tu peux aussi l'offrir à ton beau-père sans souci, puisque je trouve qu'on a tendance à beaucoup s'acharner sur les belles-mères. Donc, je pense que voilà, il faut partager un peu les tâches.
Ouais.
Mais ça a l'air cool.
Je te raconterai. Alors, et toi alors ?
Moi, je voudrais recommander une bande dessinée de Nicole Georges aux éditions Cambourakis qui s'appelle Va chercher. Nicole Georges, c'est une dessinatrice un peu rockabilly qui vit à Portland, qui dessine à l'encre en noir et blanc. Et en fait, elle avait déjà publié un bouquin qui s'appelait Allô, docteur Laura. Où elle racontait la quête de son père disparu. Et donc ce livre-ci, ça me touche particulièrement, parle de son petit chien.
Et en fait, on sait tous que tu as adopté un petit chien récemment.
Et donc elle écrit comment son parcours de vie a été inextricablement lié à la vie de ce petit chien, qui est une petite chienne assez agressive en fait et assez mal aimée. Et donc c'est un animal qui l'a accompagné de son adolescence à sa jeunesse, qui l'a suivi au cours de déménagements, dans plusieurs relations amoureuses, au cours d'une dépression. Et en fait, comment cette fille et cet animal se sont mutuellement apprivoisés. Voilà, donc je vous le recommande.
Allô, allô,
allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de Meuf vous écoute. Et on passe à la question d'auditrice.
Alors cette semaine, c'est Alexia qui nous a écrit une missive qui a l'avantage d'être à la fois concise et très efficace. Elle nous dit « Je suis une femme tellement indépendante que je pense faire peur aux hommes. Que faire ?»
Alors
Julie, est-ce que tu as un conseil ?
Oui, Alexia, tu fais peur aux hommes.
Bouh.
À certains hommes, ceux qui voient en fait en ton indépendance une force qui les affaiblirait eux.
Donc,
continue d'être indépendante, de faire des choix, de te laisser guider par ton instinct. Effectivement, c'est chiant de se sentir seule, mais je pense pas que de changer ta personnalité pour être plus conciliante ou douce va te permettre de te sentir mieux ou de rencontrer la bonne personne.
Alerte charge émotionnelle.
Exactement. Donc, heureusement, beaucoup d'hommes aiment aussi les femmes indépendantes. Beaucoup le disent, mais ne le pensent pas vraiment.
Ouais.
Et d'autres le disent et le pensent vraiment. Faut juste les chercher un peu plus, je pense. Mais voilà, va à des événements qui te parlent, à des rencontres de femmes indépendantes, etc. Je pense que tu pourras tomber sur une perle rare. Mais surtout, 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 ne change pas qui tu es. Ne change pas pour un homme.
Merci pour ces conseils sages et doctes.
On se dit à la semaine prochaine.
Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Et en attendant, n'oubliez pas de ne pas faire la lessive. Salut.
Bye.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Clémentine Gallo
et Julie Amaïd.
avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Marine Rowe, au montage et mixage Laurie Galligani, coordination Laura Cuissard.